Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Toujours depuis ce Woodstock Festival numéro 2, quasiment le 28 août finalement.
Ouais, on est le 28 août.
On est le 28 août, c'est sûr. Mais pour autant, on va vous parler encore une dernière fois de cette soirée du 27 août 2022 qui s'est passée et qui s'est finie à Woodstock avec DJ Fly.
Incroyable.
Salut à toi. Salut à vous. T'es arrivé ici juste après avoir joué avec Cut Killer. Et quand même cool. Non, pas Cool Chain.
Joe Star.
On n'a pas le droit de dire ça. Avec Joe Star.
T'as pété la gueule, toi.
Par Joe Star ? Bah, je veux. Donc, t'étais sur cette soirée-là et tu débarques quand même à Woodstock.
Non, bah en fait, c'est une date qui s'est un petit peu improvisée, la date d'hier. Sachant qu'à la base, moi, je devais jouer au Cosmic Hill Festival hier, qui se passe pas loin de Montpellier. Et au final, ils ont eu un arrêté préfectoral. Donc la date a été annulée et puis j'ai eu entre temps la demande de Cut Killer pour intervenir dans son show, chose que j'avais déjà faite il y a un mois sur Guerre au Rock. Et donc c'est le live de Cut Killer qui invite, alors là c'est la première formule, il va avoir une autre formule 2.0 et voilà, en fait c'est le live de Cut Killer qui invite des guests un peu surprises, dont Joey Star et moi-même.
Est-ce que Cut Killer a de l'importance pour toi, DJ Fly?
Bah oui, dans le background, ça a été une influence très, très marquée parce que ça a été un des premiers DJ français médiatisés, notamment avec son passage dans... Enfin, ce qui l'a fait exploser aussi, son passage dans le film La Haine, où de manière symbolique, où il prend les platines, puis il se met à scratcher... sur le grand écran, en fait, tu vois, c'était diffusé après sur le grand écran, chose qu'on avait pu apercevoir à l'époque, tu vois, le scratch, tout l'univers du hip-hop sur des émissions télé, mais alors ça remonte, moi j'étais encore très 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 kids, donc les émissions de HIPHOP de Sydney, et par la suite, la deuxième génération, c'était celle de Cut qui m'a bercé, où il avait son émission de radio, puis ça a été très très influent, puis il y a eu tout ce phénomène DJing, turntablisme, qui a été lié par rapport à ça, notamment avec les DMC, les championnats DMC, où il y a eu beaucoup de... qui étaient liés au hip-hop, en fait, où il y a eu vraiment une forte influence, c'était une déclinaison du hip-hop. La discipline du DJing avait sa place avec les battles de DJ.
Bah, on va en parler de ces DMC, et en plus, tu as été champion, mais on ne dit pas tout de suite, on tease encore un peu. C'est quoi ton parcours Comment tu viens à la musique finalement, Johan?
C'est gentil de m'appeler par mon prénom. je viens au DJing par l'intermédiaire du mouvement hip-hop, mais rien à voir avec le DJing, donc par le milieu graffiti à la base.
Mais avant ça, la musique, ton rapport, comment tu glisses,
musique.
Comment tu arrives finalement à ce mouvement-là?
Oh bah ça, je pense que ça a été une influence liée par mes parents qui écoutaient beaucoup de musique. Et puis, il y avait un côté à l'adolescence, donc un peu attiré par ce milieu hip-hop, puis le côté un peu non conventionnel. Je ne sais pas, j'aimais bien ce côté un peu bidouiller des sons de manière non conventionnelle. Quoi. Donc, moi, j'ai commencé par le scratch avant de faire du DJing. Et lié tout simplement à l'univers hip-hop, comme je disais, au graffiti, où au final j'étais très, très impliqué dans le mouvement tag graffiti, vraiment vandale.
Tu graffais?
Ouais, c'est ça. Sur des trains, sur des murs, sur des...
C'était quoi ton blaze?
Oh là, j'en ai eu 30 000, là. Si je te les sors tous, ça va être trop long. Mais du coup, c'est une période où on testait, tu faisais partie d'un élément hip-hop, on testait... pour rigoler, pour tester tous les autres éléments, en fait. Donc, tu faisais du graffiti, tu essayais de rapper. Bon, moi, ça marchait pas trop. J'ai essayé de danser. C'était pas trop mon truc. Et puis, le DJing est arrivé par cet intermédiaire-là. Mais je pense, à l'instar de plein d'autres éléments du hip-hop, où il y en a qui sont découverts. Bah, notamment, tu vois, les NTM, ils ont commencé par le graffiti, ils sont mis à faire du rap.
Et la danse.
Et de la danse, ouais, ils ont fait de la danse. Et c'était ça, quoi. On était... on n'est pas de la même génération, mais... On testait un peu tous ces secteurs.
Découvreur, quoi.
Tu fais partie d'un mouvement. Enfin, tu fais partie, c'est un peu ambitieux de dire ça, mais...
Tu t'es senti en faire partie?
Je voulais en faire partie. Après, je peux pas me dire que j'en fais partie, mais bon, en taguant des trains, tu te dis ah bah ouais, bah finalement ouais, j'en fais peut-être partie. Et du coup, t'essayes les autres branches. C'était lié en fait. Aujourd'hui, il y a vraiment, je peux pas dire qu'il y a encore ce mouvement. Ce mouvement, j'ai plus l'impression qu'il existe parce que tout simplement, c'est très individualiste. Les rappeurs, bah maintenant, dans la nouvelle génération, il y a plus de DJ avec les rappeurs. Les graffeurs font leur truc de leur côté. Les danseurs sont aux Jeux Olympiques, tu vois.
Tout est séparé, en fait. Maintenant, les producteurs font leur truc dans leur coin. Les rappeurs chopent des instrus sur YouTube.
En gros, enfin, tu nous vends du mauvais rêve en disant qu'il n'y a plus de crew, ça n'existe plus, l'histoire
si,
de...
Si, ça existe, mais...
milieu ensemble qui se bougent tous pour le même milieu, pour la même idée.
Je pense, dans la nouvelle génération... Après, je connais pas tout le monde, mais je pense que ça a un peu disparu, cet aspect. Mais on le voit aussi, ne serait-ce que par les tu vois, les shows hip-hop à l'ancienne, t'avais des danseurs, t'avais des graffeurs, ouais. C'était des crews. C'est-à-dire, tu vois, tu prends NTM, c'était un crew de hip-hop, c'est-à-dire qu'il y avait des graffeurs, des danseurs, des DJ, des beatboxers, enfin, tu vois, il y avait plein d'éléments. Aujourd'hui, le crew, il fait soit du rap, soit du machin, enfin... Donc, je pense que ça s'est un peu perdu. Alors, j'espère que... C'était cool, quoi, cet univers hip-hop où ça fédérait, où il y avait un élan. Et puis même les gens qui n'étaient pas dans ton secteur supportaient. Il y avait plein de rappeurs qui allaient voir les DMC, il y avait plein de graffeurs. Il y avait un truc qui unifiait tout ça.
RDOA 107.5, 101.7 FM, www.rdoa.fr, on l'a pas dit. On est toujours au stock 2. Tu as une question, Molo?
Ouais, j'ai une question. Du coup, cette nouvelle génération, parce qu'elle elle est vraiment présente. Moi, j'ai un gamin qui a 20 piges. Ils écoutent du hip-hop, ils sont capables de mettre 60 balles.
Enfin, du hip-hop.
Ils sont capables de mettre 60 balles dans une place de concert pour aller voir un type à Saint-Etienne que je ne connais même pas.
Qui chante en vocodeur.
Je ne
et
sais
qui
pas
dit
comment
ils
chantent, mais en tout cas, ils le font, ils le tiennent. Est-ce que dans cette scène, il y a. Déjà, tu t'es fait approcher par des gars en disant vas-y, ça te dit pas de faire un truc avec moi? Ou est-ce que tu aurais envie d'aller des fois vers cette scène en disant vas-y, regarde ce que moi, on peut apporter ensemble et on peut faire des choses ensemble?
Alors attends, il y a beaucoup de choses à répondre. La première, de mettre 60 balles dans une place de concert, ça a toujours été cher, mais sachant qu'à l'époque, enfin les concerts ont toujours été quand même pas gratuits, mais sachant qu'à l'époque, nous on mettait quand même pas mal de thunes en achetant les disques, tu vois, les morceaux, qui n'étaient pas au même prix qu'aujourd'hui où tu achètes sur tes plateformes 1€ ton track. Nous,
même là, hein, 25 balles, le disque au festival, c'était 20 balles, 25 balles hier, le vinyle. Hein.
Oui, mais en physique.
Physique, ouais.
Là, je te parle sur les plateformes numériques. La nouvelle génération, c'est que ça, quoi. C'est du Deezer, du Apple Store, du machin, du truc. Nous, quand on avait un album à l'époque, déjà, tu vois, on lâchait, je sais plus combien ça coûtait, mais tu vois, c'était ouais, 15 balles. T'étais ado, tu lâchais tes 15 balles.
On
le partageait et puis on le saignait. C'est-à-dire que même les morceaux qu'on trouvait péraves, tout pourri,
on l'écoutait en entier.
Mais ouais, on l'écoutait.
Putain, mais Digifly, t'es vieux?
Je suis mi-vieux. Voilà, alors ça, c'est la première partie de ta question. La seconde, être approché par la nouvelle génération.
Toi, t'es
envie ? Ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, je ne veux pas généraliser la nouvelle génération. En fait, tu as l'urbain. Attends, ça a un nom, ça s'appelle l'urbain. Il faut le dissocier du rap ou du hip-hop. On va appeler ça comme ça. Ça a pas du tout moi j'ai pas sensibilité sur l'urbain par exemple. Mais par contre sur d'autres artistes actuels comme Demi P ou enfin tu vois il y en a plein. Ouais moi je m'y retrouve dessus ou tu vois même les poteaux, l'animalerie, moi je m'y retrouve dessus parce qu'il y a un côté revendicateur, il y a du texte et pour ce qui m'a bercé dans le hip-hop à la base c'est pour défendre des propos, de refléter des choses actuelles. Pas pour se la racler en disant ouais j'ai 36 Rolex et 36 meufs.
On n'a qu'un poignet quoi. Et cette nouvelle scène, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de meufs, de nanas qu'on besoin. Toi aussi tu le ressens, tu les vois percer ou c'est que nous de l'extérieur ou en tant que radio ou en tant que média. Nous on a vraiment l'impression que ça arrive. Toi, tu le sens aussi?
Ouais. En même temps, il y a toujours eu des meufs. Bon, c'est une minorité, malheureusement. Ouais. Il y a toujours, tu vois, il y a toujours eu des meufs dans le rap game. Après, c'est un milieu qui est très masculin. Aujourd'hui, je pense, il y a une nouvelle vague. Il y a des nanas qui rappent. et qui défendent des propos où justement elles défendent leurs valeurs avec, tu vois, comment elle s'appelle, je pense à Tracy, où elle a un truc, c'est Pussy Power, et elle défend vraiment un truc féminin, quoi, tu vois, mais sans rentrer dans le féminisme exagéré, et tout en ayant du flow, tout en ayant du bagou, et en assurant, tu vois, c'est une nana, elle est super jolie, elle assume ses formes, et puis elle kick sur scène, quoi, tu vois. Et elle n'est pas là juste pour se montrer, et en même temps, elle a des formes, tu vois ce que je veux dire, ouais. Et donc, elle kick le truc.
Elle n'est pas là pour ses formes, elle est là parce qu'elle fait du hip-hop.
Ouais, du vrai hip-hop pour moi, où elle dégage un truc, elle a quelque chose à raconter, et pour moi, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, quand j'écoute des... je ne vais pas faire une généralité, mais quand j'écoute majoritairement ce qui sort, il n'y a plus trop de valeur à défendre, quoi, tu vois. Les mecs racontent...
leur life.
Ouais, de la saloperie, et ce n'est pas intéressant. Je veux dire, c'est là où on a perdu. Il faut dissocier l'urbain, enfin ce qu'on appelle de l'urbain, au rap, parce que ce n'est pas du tout les mêmes propos. Le rap, c'est vraiment pour défendre quelque chose. Même s'il y a toujours eu aussi du rap un peu débile et tout, mais il y a quand même derrière un truc revendicateur. Et le fait de relater quelque chose qui tourne mal dans son vécu et sa société, quoi.
Sur cette question du DMC, vous, dans votre discipline, il y a des concours de turntablisme où on vient, on s'affronte. Est-ce que pour toi, c'était important de vivre ça? Est-ce que ça a été bien d'être champion? À quoi ça sert? Parle-nous de la compétition entre DJ. À quoi ça correspond?
La compétition, déjà en elle-même, moi je suis issu du sport à la base. Donc ça a toujours été.
C'est-à-dire, vas-y, balance. T'es un footeux ?
Pas du tout, je déteste le foot. Je suis plutôt basket. En même temps, c'est presque lié, du moins à l'époque, le streetball avec le hip-hop et tout. Il y avait ce côté-là, quoi, tu vois, ce côté un peu clash, affrontement. Toujours est-il que le côté compétition, moi, m'a toujours été présent. Dans ma vie, pas dans le sens d'écraser l'autre, bon, ça satisfait l'ego, mais plus dans le sens personnel. C'est un peu une thérapie où tu essayes de te surpasser, et c'est plus une introspection que tu fais de te surpasser, en fait, tu vois, de pondre un show, de donner le meilleur toi-même, comme dans le sport, en fait, tu vois, tu donnes le meilleur toi-même, pas pour écraser l'autre, c'est plus un truc pour toi. Et du coup, d'avoir rempli un objectif personnel, et tu ressors avec des grandes satisfactions.
Et donc, s'il n'y avait pas eu cet événement pour te surpasser, est-ce que tu en serais là, Digifly ?
Bah, je ne sais pas. Après, il y a bien des compétitions de majorettes. Il y a des trucs improbables. Donc,
excellent.
Donc, ouais, on est un peu la compétition. Bah, tu sais, moi, quand j'ai été champion du monde la première fois en 2008, j'étais champion du monde de majorette pour des potes.
Mais oui, évidemment. Pour ta mère aussi, peut-être, ou pour tes parents.
Ouais, ouais.
D'accord, c'est super cool. Et c'est quand que tu as un vrai travail ?
Ouais, voilà, ça a été ça. Bon, à partir du moment où j'étais champion du monde, là, il y a un discours qui a un peu changé. Et non, sans le championnat, du coup, j'en sais rien, là, je peux pas te répondre. Ce qui m'a apporté le fait des champions du monde, bah déjà, c'est une expérience de remplir un objectif. Tu vois, c'est un peu nos JO. C'est un milieu très, très spécifique, très...
technique.
Bah, technique, mais aussi très sectaire, très... C'est
des codes.
Du coup, on a un show, pour résumer, à produire, où on doit donner le meilleur de soi-même. Certes, il y a des codes au fur et à mesure des années, où il y a des tendances, mais comme dans n'importe quel truc artistique, tu vois, t'as des influences, le jury peut être influencé parce que c'est la tendance de tel style de musique et tout machin. Mais en gros, on a un show de 6 minutes, donc c'est super court, c'est du patinage artistique en gros, et qu'on doit bosser, connaître par cœur.
En string sur une patinoire glacée.
Ouais, mais tu sais pas si je suis en string derrière.
On va bien le voir du coup.
Après, ce qu'il en découle, certes, t'as de la notoriété, mais qui est dans un milieu très spécifique encore, tu vois, c'est pas à l'échelle superstar. Bien que moi j'ai été booké. Ça a ouvert des opportunités professionnelles juste avec le titre champion du monde, mais les mecs savaient pas du tout ce que je jouais en soirée.
Ouais.
Donc j'ai arrivé en Chine mode ouais, il est champion du monde DMC, des DJ et tout. Et personne savait.
Et là, tu claques un gros hip hop old school français, les mecs.
Ah, moi j'ai vidé
pas.
Des pistes. Hein. Mes premières tournées en Chine, j'ai vidé ma première date en Chine à Shenzhen, j'ai vidé la piste.
C'est bon ça.
C'était avec le manager turc qui te regarde un peu bizarre de travers. C'était un peu spartiate.
Tu viens d'où pour finalement en arriver là et nous dire que, ben, tu vois, même en Chine, alors que t'as beau être champion du monde, ça marche pas.
J'ai fait une date ou deux dates où ça marchait pas. Après,
t'as réussi.
Oui, oui, oui.
Alors, qu'est-ce que t'as changé ? Qu'est-ce que
pour la Chine, par exemple, qu'est-ce qui a changé ? En fait, il y a eu l'ouverture. Moi, je suis arrivé. La première tournée, c'était en 2008. C'est la période où la Chine commençait à s'ouvrir musicalement à l'Occident. Donc, ils n'avaient pas les références et que je vidais la piste. Puis moi, je balançais des gros classiques. Tu vois, des Dre, des trucs comme ça. Et eux n'avaient pas la référence, en fait. C'est-à-dire, pour toi, ce qui te paraît un truc, ouais, vas-y, tu vas...
Tout le monde danse.
Ouais, voilà. Eux n'avaient pas la référence. On n'avait pas les mêmes points de repère. Après, ils sont ouverts sur l'Occident. Et par contre, c'est assez impressionnant parce que du coup, ils ne connaissent pas les classiques, tu vois, les Dre, les Snoop. Mais par contre, ils jouent des trucs super actuels qui envoient du steak, quoi. Ouais. Donc, il y avait un espèce de décalage. Aujourd'hui, maintenant... Ça s'est ouvert, tu vois, ils sont ouverts à plein de trucs. Mais voilà, après, moi, j'ai changé. J'ai toujours bossé en ayant des sets de secours, parce que je me suis rodé avec cette expérience. Et aujourd'hui, je peux jouer de partout, même dans des clubs, même si ça me fait chier et que j'évite de le faire. Mais si je tombe dans une soirée où forcément, c'est plus commercial.
Où ça prend pas. Où les autres
j'ai quand même des cartouches. Et puis, j'ai plus de 20 ans de carrière. Donc, je connais le truc. Le but est quand même de sans baisser mon froc, mais d'arriver à faire kiffer les gens et d'amener les gens dans ton univers. Quoi. Et pour ça, il faut quand même mettre des points de repère. Tu peux pas arriver comme ça de brut en blanc, arriver, tiens, je fais ça, bim, boum. Enfin, tu le fais en festoche, mais en club, c'est compliqué.
Une faute.
On a l'impression d'entendre que du coup, tu joues partout quand même, DJ5. Comment tu choisis tes dates ? Est-ce que tu les choisis d'ailleurs ?
Oui, je les choisis, j'ai toujours le dernier. Après, j'ai une équipe, j'ai un tourneur, un manager.
Cite-les ?
Oula, ouais, y en a beaucoup. Puis là, j'entre. c'est tous des cons, de toute façon. En fait. J'ai toujours été assez open d'une manière, enfin comment dire, que ça n'entache pas ma vision artistique. C'est-à-dire que les clubs en France, j'arrête, j'en fais quasiment plus. Ou alors si je les fais, c'est en connaissance de cause, en sachant que le programmateur qui me fait venir sait ce que je joue, sait que je ne vais pas passer de la radio et tout. Je fais des festoches, je fais des salles de concert et je fais aussi des bars. Ça m'arrive de faire des bars. Je fais toujours une tournée l'hiver dans les stations de ski parce que je kiffe. Parce que c'est un public. Alors, c'est pas des bars de touristes, c'est plus des bars de saisonniers, quoi. Tu vois, c'est des petits trucs.
En même temps, tu vas aller chercher le vrai public et qui va se confronter, qui va te rentrer dans la gueule.
En même temps, les mecs, ils suent sur tes platines. Bon, c'est pas très Covid et tout, mais y a un côté rock, quoi. Tu vois, où t'es dans le truc et quand tu fais jumper tout le monde, tu te jumpes avec. Tes platines, elles sautent dans tous les sens. Mais c'est kiffant, en fait.
Et aussi des festivals où t'es à 5 mètres de haut.
Et c'est ça. Et aussi des festoches où tu as 30 000 personnes et t'as pas du tout ce côté relationnel. C'est pas le même échange d'énergie. Je veux dire, les festoches, c'est cool, ça gratte l'ego, c'est super. C'est génial, c'est une expérience. Tu lèves la tête, tu vois pas le bout du monde. Mais aussi, c'est bien d'alterner avec, tu vois, des bars où t'as 100 personnes et ça sue. Et les regards que t'échanges, c'est des vrais regards que t'échanges.
On pourrait dire que ces festivals où on voit personne et qu'on rencontre personne servent à financer le reste, là où tu t'éclates aussi vraiment, comme celle d'Aoustag Festival ou d'autres.
Non, pas du tout, parce que c'est aussi un kiff de jouer devant des milliers de personnes, parce qu'il y a un autre échange d'énergie. Et quand tu balances un truc et que ça drop et que tu as 30 000 personnes qui gueulent sur ce que tu envoies, c'est une gifle énorme, c'est un échange d'énergie qui est énorme. Et tu as envie de donner, puis tu as un audimat qui est beaucoup plus grand. Non, c'est pas du tout une histoire de thune ou histoire de machin, c'est un autre délire. Peut-être que j'y reviendrai si un jour je suis en galère et tout machin, mais pour l'instant, j'essaye je choisis, j'ai le dernier mot sur les dates, quoi. Si j'ai pas envie de faire un truc, je vais pas me forcer. Si ça colle pas, je vais pas me forcer. Parce que j'essaie de toujours prendre du plaisir sur mon métier, sur ma passion, sur mon art. Et d'arriver dans ce truc où tu vas dans une date, tu sais que ça va être moyen, tu vas traîner les pieds, puis finalement, ça va être moins... On a la chance quand même de vivre un truc où on n'est pas à l'usine. Tu vois, c'est quand même une chance. Et c'est ça, moi, j'en ai conscience tous les jours. Si je me retrouve dans cette situation à aller dans l'usine, entre guillemets, hein, tu vois, je mets des gros guillemets, comme si j'allais à l'usine alors que je vais bosser dans un truc artistique, et finalement, c'est pas réceptif et je traîne les pieds, non, j'arrête, quoi, tu vois. Autant on va faire un vrai truc, ça sert à rien. Il y en a qui sont plus doués que moi dans ce secteur d'activité, tu vois, des clubs, des machins, je généralise encore. Je leur laisse la place. Moi, j'ai pas ma place là-dedans.
Quand tu montes sur scène, c'est quoi que tu défends? C'est quoi que tu as envie de nous balancer dans la gueule hein?
Bah, je défends l'énergie, puis le côté authentique, c'est-à-dire que je suis pas sur un créneau superstar. Il m'arrive de côtoyer des superstars, mais je suis pas dans ce créneau-là. C'est que moi, je suis plus dans l'échange d'énergie et de revendiquer le vrai côté artistique du DJing, ce qu'on appelle le turntablisme, ou enfin pas forcément, parce qu'il y a des DJ qui le turntablisme c'est très réducteur sur le scratch et tout machin, mais qui se passe quelque chose sur scène.
Explique-nous qu'est-ce que tu entends par sortir du DJing, pousser des disques et les enchaîner. C'est quand même un certain art. Et nous, on le sait à la radio.
Sans être réducteur sur le turntablisme, c'est que le côté real DJ, on va dire, le vrai côté du DJing, c'est bosser sa programmation, animer, qu'il se passe que les transitions soient bossées, d'apporter une création artistique avec comme outil, comme instrument, les platines. Donc ça peut être par scratch ou par des mix ou enchaîné.
Donc ça veut dire que les morceaux que tu nous proposes sont toujours réarrangés,
choisis,
remixés.
Ouais.
Et c'est ça le bonus par rapport à un DJ qui pousse des disques, même bien enchaîné, c'est que toi tu fais une proposition artistique par-dessus.
Ouais, c'est ça en fait, mais c'est la base du DJing en fait. C'est qu'aujourd'hui, on a l'image, enfin le public un peu lambda, du DJ qui pousse un disque et qui lève les bras. Ça l'est encore, c'est une image qui est ancrée, je pense, jusqu'à 2000, tu vois, tous les DJ jusqu'à 2000, allez, peut-être 2005. Tous les DJ avaient un background de DJ, c'est-à-dire qu'il fallait être bon sur scène. Aujourd'hui, les artistes qui se présentent en tant que DJ, ils sont bookés parce qu'ils ont fait un tube, parce qu'ils ont fait une collaboration, et il y a beaucoup de producteurs qui sont prétendus DJ, mais sans background DJ en fait, c'est-à-dire qu'ils ont fait une formation. Moi, je peux former n'importe qui à faire ce que fait le taf de plein de DJ producteurs en 2 semaines. Et je parle vraiment, j'avais un discours un peu cru, mais en même temps j'ai eu la vérité sous les yeux, parce que là je reviens, enfin je sais pas, il y a 2 semaines j'étais à Ibiza, j'ai passé une semaine sur Ibiza quand même pour, ouais voilà, et quand même pour parler en connaissance de cause, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que les mecs sont producteurs, ils ont pas de moyens de se produire sur scène et ils sont demandés. C'est tu vois les kids, ah ouais, on a envie de voir, ouais, j'ai pas les noms,
non, on cite pas.
Mais parce que le public veut voir la personne physique qui a fait le tube et tout. Mais sauf que cette personne-là, c'est un producteur. Oui, il ne va pas sortir tout son setup de producteur sur scène et faire une prod en live, on est d'accord. Donc, ils se sont mis la facilité. Alors, il y en a qui proposent des lives. Mais la facilité, c'est d'avoir juste c'est pas un faux gars, c'est d'avoir juste 2 platines. En plus, ils en demandent 6, ils n'en utilisent qu'une et demie. Et il se passe rien, c'est-à-dire qu'à part faire les papillons avec les mains sur les drops et tout machin, il se passe rien. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'est pas une légende, c'est la réalité. Et c'est des DJ. Voilà, c'est la faute aussi du public qui est non initié.
Ouais, puis qui est crédule aussi un peu à un moment donné, merde.
Si on revenait sur toi, DigiFly, comment est-ce que tu travailles? Et du coup, puisque tu nous as tendu la perche, est-ce que toi aussi tu produis, tu composes?
Ouais, alors. Comment je travaille pendant les championnats, c'est du travail très. Je prépare les Jeux Olympiques, comme je disais, quoi. Donc c'est du travail quotidien, acharné. Et puis tout ce, faut savoir que quand même le scratch ou l'art du turntablisme, c'est la discipline la plus complexe, difficile, ingrate du DJing. C'est-à-dire que caler des disques ensemble, bon, certes, ça demande un peu d'oreille, un peu de technique, mais comparé réellement à ce qu'est le scratch ou le turntablisme, le passe-passe et tout, c'est rien du tout. C'est-à-dire que de caler deux sons ensemble, ok, faut avoir une connaissance musicale, puis après, techniquement, il faut juste les enchaîner enchaîner un disque A avec un disque B. Ça. Pour moi, quasiment tout le monde peut y arriver en peu de temps suivant. Bon, après, il y a des gens qui sont arythmiques et tout, ça arrive. Mais il faut arrêter d'idolâtrer ces gens-là, quoi. C'est pas des surhumains de voir des gens caler de disques, de mixer. Là où ça demande vraiment une préparation et du travail acharné, assidu, pendant des jours, des années, moi j'ai bossé, mais pendant que à mon adolescence, je faisais que ça, je faisais que du scratch. J'ai bossé pendant des années à m'enfermer, pendant que les potes sortaient boire des canons, moi j'étais enfermé chez moi pour bosser que le scratch. Je sais pas, c'est comme le skate ou enfin il y a plein d'autres disciplines où.
C'est marrant que tu parles du skate parce que justement on a fait cette allégorie déjà avec d'autres artistes dans la soirée. Le skate, c'est reproduire je sais pas combien de milliers de fois la même figure et en tombant et en s'écorchant les genoux. Et là, tu nous redis ça.
Le scratch, pour y arriver, c'est super compliqué. Je veux dire, les premiers mouvements, il faut quand même bosser comme un dingue pour arriver à sortir des trucs cool. Et après, c'est comme un... Le scratch, c'est comme un langage, quoi, tu vois. C'est comme... t'apprends une langue.
C'est un instrument, c'est dit tout à l'heure.
Ouais, mais un instrument, mais aussi un...
Tu joues des deux mains.
Aussi une langue, en fait. C'est-à-dire, plus tu as de phases... plus tu as de skills, plus tu as de vocabulaire, plus tu peux t'exprimer. Et comme un instrument, c'est-à-dire plus tu vas avoir de facilité à jouer, plus tu vas pouvoir freestyler, tu joues de la guitare ou du piano, plus tu as bagarre derrière, plus tu as travaillé ton truc, plus tu peux improviser, plus tu peux t'exprimer. C'est exactement, et c'est là où le scratch fait que la platine vinyle devient un instrument.
Bon, on l'a bien vu hein, tout à l'heure, on était un peu scotché sur tes deux mains, on s'est dit ouais, c'est un guitariste, un bassiste, enfin, ou un drummer, enfin.
Un instrument, tu vois une trompette, tu sais quel son ça va sortir. Tu vois une guitare, tu sais plus ou moins avec les distos et tout machin, ou si c'est sèche, tu sais
raison.
Plus ou moins ouais. Quelle sonorité ça va sortir.
Tu sais pas ce qu'il va
cracher. Un violon pareil, enfin bref. Un scratcher, il va faire de la musique avec un sample, et ça peut être un sample de trompette, un sample de voix, un sample de batterie, un sample de... Enfin, tout ce que tu veux. Du coup, il y a une surprise et on n'est pas limité sur le champ du timbre de ton instrument. C'est-à-dire qu'on peut vraiment scratcher tout et n'importe quoi. Et
comment... Donc, tu vas jouer du piano, tu vas jouer de la guitare, on en revient à ta collection de... C'est quoi ta base pour... C'est quoi tes scratch?
Pour répondre à ta question du coup que tu avais posée, auquel j'ai pas répondu, oui, je fais de la production. Et en fait, j'alimente mes prods toujours par du scratch. Donc, c'est-à-dire que au sein de ma production, quand je produis, moi, je suis très influencé par ce qui véhicule de l'émotion. Donc, très musique de film, de choses comme ça. Donc, très cordes, très violoncelle... violon, enfin très cinéphile, ouais, voilà,
où ça, aussi.
Ouais, ambiance marquée, des thèmes marqués, ce qui fait que sur mes productions il y a beaucoup de même si c'est pas toujours mis en avant, il y a toujours des scratchs de violon qui traînent, plus après je rajoute toujours, parce que c'est ma marque de fabrique, des éléments rythmiques qui sont scratchés, et aussi après des basses.
Tu breaks à mort toi tout le temps hein. Ça c'est vrai, là on a vu ton live. Du coup, est-ce que tu travailles avec des instrumentistes, tout ça? T'es sorti un petit peu de des samples. Comment est-ce que tu bosses aujourd'hui? Et question un petit peu après, t'es toujours indépendant, t'as un label, comment tu fonctionnes?
Alors, sur la production, moi je travaille avec... j'ai la chance d'avoir quand même des potes qui sont zikos et de très bons zikos. Et puis on se donne des coups de main comme ça. Donc en général, moi je fais mes prods, puis je sais pas si j'ai besoin d'une ligne de basse, bon, je l'écris, je fais mon truc, puis après mon pote il va
jouer.
Ouais, je la fais jouer, mais avec le bagou, avec en laissant carte blanche, en disant bah tiens, vas-y, tu peux t'amuser là-dessus, enfin je dis ligne de basse, mais ça peut être guitare, ça peut être violon. Donc ouais, il y a beaucoup de d'instruments joués, mais comme moi j'ai quand même la culture du sample, bah du coup je l'utilise après comme un sample. C'est des samples un peu privilégiés perso,
oui, voilà.
Qui après je
tu
peux
te fais faire tes samples.
Bah c'est ça, je sample les copains en fait. Mais du coup ils ont connaissance du morceau et non, c'est super cool. Donc du coup je peux rescratcher les samples sans clearer les droits.
Moi j'aimerais bien que tu balances 2-3 noms des mecs avec qui tu kiffes bosser, avec qui tu kiffes prendre des samples.
C'est
une question de merde, mais c'est une
question importante. Non, mais moi je bossais avec j'ai eu une formule live avec un quatuor violon et violoncelle, enfin deux violons et deux violoncelles.
Qui s'appelle
C'était une formule hybride qui s'appelait Flynimalry Orchestra. C'était une formule avec l'animalerie et DJ Fly et son orchestre.
Mortel avec l'animalerie.
Et c'était, ouais, non, c'était cool. Enfin, c'était deux membres de l'animalerie, c'était Anton Serra et Lucio Bukowski. C'était Quentin qui faisait les arrangements en cordes. Il y avait Baptiste Chambrion qui fait des guitares. Là, lui, il bosse sur un projet qui s'appelle Domenco.
Baptiste, qu'on salue.
Ouais.
Et bah, bisous.
Et bisous, Baptiste.
On fait des bisous aussi à Margot.
Et aujourd'hui, je découvre et puis je collabore avec pas mal de...
Tu pompes, salement.
d'artistes nantais, parce que maintenant, j'habite sur Nantes. Donc toute la team, donc David Ledinf, Igor, David Ledinf qui bosse avec Hocus Pocus, Igor avec Malton Mick, enfin voilà.
Et s'il y a des mecs du coin qui sont pas venus au festival et qui ont tout raté, pour connaître DJ Fly, qu'est-ce qu'on écoute?
Bon, faut regarder sur YouTube là, c'est plus...
C'est vieux.
Ouais, c'est vieux.
Bah
putain,
ouais.
C'est ton championnat du monde 2013.
T'as pas d'enfant, pas de barbe.
T'as pas de barbe, t'as pas d'enfant.
Bah tu rigoles, j'ai fait une vidéo full hip-hop en full vinyle il y a 2 ans.
Tu l'as pas trouvé, Lolo.
Mais 2 ans, c'était avant, quoi.
Ouais, non, mais il y a d'autres
trucs. Il l'a pas trouvé. Il s'était documenté et il nous a sorti que ça.
Non, alors ce qui va se passer, c'est que du coup, là je suis en train de préparer plusieurs projets. Notamment un projet avec une chanteuse... En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose au niveau actualité discographique. Il y a des remixes, et là, je suis sur pas mal de remixes en ce moment. Il y a eu un remix de Guetta. Alors, il faut savoir, Guetta est quand même à l'antipode de ce que je défends.
Mais t'as aimé remixer Guetta ?
Alors, attends, je termine. Mais le mec a quand même repartagé...
Ton mix.
Mon mix.
Remix.
Ouais, ouais,
cool.
Ma performance.
C'est cool.
Donc on parle quand même d'un mec qui a 8 millions d'abonnés.
De tout le monde.
Non mais est-ce qu'il faut trasher Guetta? Viens, on le fait pas parce que c'est pas la peine.
Bah, en fait,
il a sa place.
Il a du background DJ, il vient, il connaît et puis le fait qu'il repartage ma vidéo, c'est quand même qu'il respecte le travail.
Le boulot, ouais.
Après, on est quand même sur une autre sphère là. On parle d'un mec, d'une superstar.
Mais pour toi, ça a été intéressant de remixer David Guetta?
Non, ça a été un défi. C'est un défi mis en place par mon sponsor Sennheiser qui m'a dit tiens vas-y reprends un truc super connu et moi ils m'ont donné le morceau et je connaissais pas du tout le morceau original. Je suis allé checker puis ça avait je sais pas combien de milliards de vues sur YouTube. J'ai fait ah ouais,
c'est
en fait
un des derniers avec moi qui l'avait pas
là, c'est cadeau. C'est cadeau.
Et du coup j'ai écouté le track, j'ai fait ah ouais ok, qu'est-ce que je vais faire de ça. Et donc ça a été gros défi, et au final je suis content du résultat. Je suis super content de ce que j'ai pondu, parce que de partir comme ça tout en gardant ma patte, ouais, je suis refait quoi. Là, le prochain truc, là, je suis en train de bosser un remix de Bob Sinclair.
Excellent aussi.
Qui sort à la rentrée.
Putain, tu te fais tous les DJ stars.
Ouais, ouais.
Laurent Garnier, et après, t'es au bout là.
Après, là, en projet, il y a quoi? Il y a Trinix qui est terminé. Il y a I Like Tribe. J'ai toujours pas bossé dessus.
Excellent.
Et là, je suis en train de terminer un remix d'ailleurs de Cut Killer, le morceau La Haine, en mode grosse tabasse pour les festoches. J'ai fait un remix de Wax Taylor, un remix de Hocus Pocus. Voilà, tu vois, en l'espace d'un an, j'ai fait quand même beaucoup de remix.
Les loustiques qui sont vivants encore.
Ouais. Et du coup, là, on arrive sur l'étape où on termine les remix, puis on va passer à la production, donc passer sur l'actualité discographique. À mon propre nom. Donc il y a un projet avec une chanteuse qui va sortir, je pense, 2023, dans un univers entre trip-hop, enfin très influencé par du trip-hop, mais réactualisé, où il y a des morceaux qui vont partir en techno, dubstep, enfin ça part dans tous les sens, mais il y a une influence très portichédienne. Et en même temps, on s'est dit, vas-y, fucked up, on enlève les codes, on fait de la musique. Voilà, on fait juste de la musique, juste du son.
Non, mais c'est vrai que nous, on a apprécié quand même ton live ce soir. Et en vrai, tu pars d'une certaine base, tu vas dans le hip-hop, tout ça. Et puis, tu vas très vite aussi dans le dubstep, dans la drum, dans le trap. Tu satisfais
Mark
tout le monde.
Mark Knopfler,
t'es resté. Un petit Mark Knopfler au milieu.
Incroyable.
T'es resté à la fois. Tu peux satisfaire des plus vieux. Et tu viens aussi balancer un son super moderne, enfin voilà.
Ouais, c'est ça en fait. Moi, je viens du hip-hop, et déjà la base du hip-hop, c'était ça, c'est que les premières soirées hip-hop, les premiers DJ qui hip-hop, le style rap, enfin hip-hop n'existait pas, il mixait de la disco et de la funk, si tu veux. Donc, en fait, ma manière de mixer est hip-hop, et aujourd'hui, je pense que je la décline en 2022 avec plusieurs styles, c'est-à-dire que peu importe, on s'en fout quoi, du style de musique. Non, pas que, je suis ce qui me fait kiffer, en fait, tout simplement. Ouais. Je suis pas le mouvement, parce qu'il faut suivre le mouvement. Et pendant super longtemps, j'ai arrêté de faire des sets hip-hop, enfin, je restais sur mes sets hip-hop des années 90, mais parce que je m'y retrouvais pas dedans. Non, je suis pas parce qu'il faut suivre. Je suis des trucs qui me kiffent, tu vois, il y a plein de trucs que je balancerai pas, que je balancerai jamais, qui sont dans la tendance et tout, mais que je peux pas. Comme dirait la Scred, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction.
Tes éléments de com, pour terminer.
Insta, DJ Fly avec un 1 à la fin, DJ Fly 1. YouTube, tu tapes DJ Fly. Ouais, je crois qu'il y en a. Bon, il y a des imposteurs. Il y en a plein.
Des mecs qui essaient de choper des montres ou
ça,
des
casquettes. Fin, il y a du truc grave. Officiel.
Excellent.
Il y a un mec qui m'avait piqué mon logo.
Excellent. Putain, j'aurais trop de nous pète notre logo. Genre, c'est la tasse de mort.
Attends, c'est l'instant comme DJ Fly.
Alors, sur Insta, DJ Fly avec un 1. Facebook, c'est. Ouais, je sais même plus, moi, c'est DJ Fly. Bon, tu tapes DJ Fly, tu tombes sur les trucs.
On va te trouver.
Et puis, je vais me lancer sur, pour rigoler sur Twitch là prochainement. Non, pas sur Twitch, sur. Comment ça s'appelle cette merde ?
TikTok,
voilà. Ouais. Je pense que en fait on s'est lancé un défi parce qu'il faut être un peu quand même s'il faut jamais être dans la tendance, un peu dans la tendance avec un pote de
parce que t'es vieux.
Je suis très vieux. Avec un pote qui fait partie d'un projet qui s'appelle Alligator, c'est un mec qui bossait avec Caravan Palace et on s'est chauffé parce qu'on est tous les deux vieux. Et on s'est dit, ouais, vas-y, en plus, on a le format, on a plein de vidéos performance qui pourraient cartonner. Et tout le monde nous dit, ouais, mais fais ça sur TikTok. Et pour moi, TikTok, c'est...
Tu verras bien, en fait.
Ouais, voilà, donc on va essayer, là, à partir de septembre, là, on va essayer de se mettre sur TikTok, faire des trucs. Donc, faut donner de la force, les amis.
Donc là, c'est si on te lâche le micro en fin de minute, là, c'est toi qui dis, toi qui parles.
Alors, moi, j'ai envie de dire un truc, c'est que là, il est quand même 4h13 du matin. On a un peu de rhum dans la gueule et il est l'heure d'aller se coucher parce que j'ai mon train relativement tôt demain. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir d'être avec vous et j'ai kiffé ce soir.
Voilà, DJ Fly, merci pour le show. Merci pour ce moment. Didier Fly.
Merci à vous.
Merci pour tout. Et puis, auditrice, auditeur de Ardua, rendez-vous à la prochaine glissade comme ça entre copains.
Et pardon pour les dents qui collent.
Allez, bisous. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Criticize.